Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Hello. Il est 9h40, l'instant M en direct de chez nous et de nulle part ailleurs.
Vous êtes en direct, allez-y.
Complément d'enquête installera demain soir jeudi ses célèbres fauteuils rouges à l'Élysée pour une émission en direct titrée Les femmes du président, sans pour autant pouvoir manifestement les interviewer, les femmes en question. C'est tout le sujet du rapport entre le nouveau président et les journalistes que soulève le magazine, à la fois dans ses trois sujets d'enquête, mais également dans ce que l'Élysée a choisi de les laisser faire. Ou pas, évidemment. Emmanuel Macron lui reproche aux médias français de ne s'intéresser qu'à sa communication. A-t-il ou non raison? Est-ce un vrai sujet ou une lente dérive du journalisme politique, voire du journalisme tout court?
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Thomas Soto.
Bonjour Sonia De Villers.
Bonjour Thomas Soto.
Bonjour Sonia De Villers.
Voilà, ça me fait rire de saluer l'ancien matinalier d'Europe 1, donc 4 années de matinale sur Europe dont vous avez été écarté en juin dernier. Retour à la télé, vous en avez fait beaucoup avant la radio, même si vous avez commencé par la radio sur France 3, sur BFM TV, sur M6, on y reviendra. Vous reprenez la suite de Nicolas Poincaré à la présentation de Complément d'enquête. L'enjeu cette année, c'est de redonner une identité à ce magazine d'investigation historique qui doit retrouver sa place en clair entre envoyé spécial incarné par la très populaire Élise Lucet et Cash, autre programme d'investigation avec un ton et des moyens, aussi du temps et de l'argent dont vous ne disposez pas. Vous avez retrouvé Cash, c'est des très gros moyens, c'est des enquêtes très longues, plus longues que celles de...
Mais ça ne veut pas dire que nous, on n'a pas de moyens pour faire les nôtres. Non. On y reviendra, il n'y a pas de problème.
Non. Et d'ailleurs, Complément a toujours fait du super bon boulot. Nous, on les a souvent invités, reçus et suivis. Il a toujours fait du super bon boulot. Mais c'est vrai qu'il y avait un problème...
Je ne peux pas vous contredire.
Mais c'est vrai qu'il y avait un problème d'identité, non? Il y avait un problème de marqueur, de repérage sur la chaîne?
Entre les différents... Complément, j'allais dire Cash. Non. Complément avait perdu sa visibilité.
C'est
parce que l'an dernier, ils ont tenté quelque chose qui était audacieux, qui malheureusement n'a pas été payé de succès. Et on comprenait plus très bien où se trouvait Complément d'enquête. Donc là, le pitch, on va dire, est clair. C'est une fois par semaine, le jeudi soir, en deuxième partie de soirée, ça s'appelle Complément d'enquête.
Voilà, et vous êtes sorti du périmètre d'Élise Lucet, vous avez retrouvé votre autonomie, vous partagez la ligne éditoriale, à envoyer spécial le reportage, à vous les enquêtes.
Oui, puis nous, on a toujours eu cette spécificité.
Oui, ça va beaucoup leur plaire, envoyer spécial.
De quoi?
Non. De savoir qu'ils font plus que du reportage.
Mais il n'y a pas de gros mots. Non, il n'y a pas de gros mots. Complément d'enquête, il y a tout est dans le titre de l'émission. C'est de l'enquête, donc oui, je ne vais pas vous dire qu'on ne fait pas d'enquête. Et parce qu'on décline une thématique à chaque fois, on prend un sujet et on le tord dans tous les sens pour avoir différents angles, pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière tel ou tel aspect d'un sujet. Donc on ne fait pas la même chose et ça ne veut pas dire que ce qu'ils font est moins bien que ce qu'on fait ou réciproquement.
Voilà, c'est votre premier... Oui, c'est très bien, parfait. Votre premier lancement la semaine dernière.
Bonsoir à tous. Vous pensez peut-être avoir déjà tout vu, tout entendu sur le trafic de cannabis. Ce soir, pour ce nouveau numéro des documents de complément, ce n'est pas un énième reportage toutes sirènes hurlantes que nous vous proposons, mais bien une enquête implacable sur ce qu'il convient d'appeler l'industrie du shit.
Et là, Thomas
Soto. Alors, c'était mon deuxième lancement. La première émission, c'était sur l'eau.
Alors, là, n'empêche que vous pointez la dramatique standardisation des formats de télé et ce qu'on peut appeler l'école Charles Villeneuve de TF1, le droit de savoir, appel d'urgence, 50 minutes inside. Ce qu'on a appelé dans le jargon de la télé pimpon. Moi, j'ai déjà entendu ça dans des salles de montage, une forme de sensationnalisme embarqué avec les forces de l'ordre dans tous leurs états.
On est avec la BAC, on a les freins qui crient,
c'est
etc.
C'est ça,
etc.
Chaud, de l'adrénaline, de la musique inquiétante des qu'on s'approche d'une banlieue qu'on a souvent retrouvé sur M6 côté la Villardière, etc. et sur les chaînes de la TNT. Et pour vous, c'était important de se démarquer du point de vue de la forme aussi?
C'était important de se démarquer du point de vue de la forme. Ce qui était surtout important, c'était de proposer un contenu qui soit différent et qui apporte quelque chose. Moi, je vais vous dire ce doc...
Oui, mais vous voulez pointer les sirènes hurlantes en disant « Nous, là, on est sur le service public et on ne fait pas ça. »
Non, je ne dis pas « Nous, on est sur le service public. Bon, » Je vais vous raconter comment ça s'est passé. Ce sujet-là, ce 52 minutes, il était enquêté depuis le mois de février. Quand on m'a dit, je suis arrivé, tiens, on a un 52 sur le cannabis en Seine-Saint-Denis, j'ai fait « Pfff !»
Voilà. Encore.
Voilà, exactement. Et j'ai regardé le doc. Après, on a fini le montage ensemble avec Thomas Auro et avec toute l'équipe.
Qui est votre rédacteur en chef.
Voilà, on est co-rédacteur en chef de l'émission. Et je suis allé voir ce truc Et je me suis dit, ah ouais, ça c'est vraiment bien. Et la difficulté sur un sujet comme ça, parce qu'on expliquait l'économie, il y a quasiment un code du travail, je sais pas si vous avez eu le temps de le regarder, les mécanismes de blanchiment avec ces restaurants qu'on pignon sur rue mais qui servent jamais un client, qui servent simplement à blanchir l'argent, etc., etc., etc. Et on voit ces fours, ces supermarchés, moi je ne les connaissais pas, ces supermarchés à ciel ouvert où on va à 10h du matin, il y a 60 personnes.
Sauf que dans la tête du téléspectateur, aujourd'hui, il y a des réflexes incrustés qui sont ces sirènes hurlantes. Et
D'où l'intérêt de leur dire non, c'est pas un pimpon reportage.
C'est pas un pimpon reportage. C'est pas un pimpon reportage. Vous, vous avez
d'ailleurs, ça a très bien marché, honnêtement.
Capital sur M6, Thomas Soto, autre école de télévision façonnée par Emmanuel Chin, qui a créé cette voix off omniprésente, ce commentaire qui ne se tait jamais et qui vous décrit chaque chose que vous voyez à l'image. Ça donne ça tout récemment. Alors, on en a pris un tout récent.
À Saint-Cyr-sur-Mer, près de Bandol, il est 8h du matin. La plage est déserte, tout comme le parc Aqualand, à quelques centaines de mètres, qui va ouvrir dans 2 heures. Bizarrement, un homme remonte les toboggans à pied.
Bah, je regarde l'état général, je regarde les bas, si elles sont bien protégées, voilà.
Il n'y a pas un mot là de ce qu'on entend qui n'est pas déjà à l'image.
Absolument.
Ça, on peut dire que ça a fait quand même. Ça a inventé un vrai truc.
Ça a été l'écriture, et c'est l'écriture capitale. On montre une porte, on dit porte.
Voilà. Alors,
c'est comme ça que ça se passe.
Ça fait un mal de chien à la télé, non? Parce que ça aussi, ça s'est répandu absolument partout.
Je ne sais pas si on peut dire que Capital a fait un mal de chien à la télé, parce qu'honnêtement, quand on prend.
Ça, je vous parle de ça, de cette standardisation sur la forme. Vous pointiez les sirènes hurlantes. Ça aussi, cette voix off, ce commentaire. Ouais. En plus, on peut aussi disserter longuement sur. Et maintenant, direction le centre-ville.
Oui, on peut dire aussi pour le comprendre, machin, etc. Voilà. Elle, c'est Sonia. Voilà.
Voilà.
Mais,
ça,
mais évidemment, après, on peut débattre pendant des heures là-dessus. Est-ce que c'est ce qui fait l'identité de l'émission et qui fait qu'aujourd'hui on vient la regarder ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est peut-être un peu démodé et sur lequel il faut revenir? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, quand j'étais à Capital, on avait fait une liste de mots à l'époque.
Interdits.
Les mots interdits, exactement. On avait un paperboard qui n'est pas très moderne et on avait mis les formules et les mots interdits.
Et maintenant, direction le centre-ville. C'est toute la question, évidemment, que Cache Investigation a réussi à résoudre, c'est-à-dire faire ni du Capital ni du Villeneuve. Inventer un nouveau ton. C'est toute la question que vous cherchez, vous, forcément, à résoudre, parce qu'on voit bien que c'est devenu deux impasses en télé, ça s'est tellement uniformisé, tellement standardisé.
Mais ça, cela dit, ça recule un peu, il y a un petit reflux de ces émissions. Avant, quand on zappait le soir sur la TNT, on avait 17 fois avec la BAC à Lille, avec la BAC à Marseille, avec la BAC à Toulon, etc., etc. Donc ça, je pense que ça recule un peu, parce qu'à un moment, le téléspectateur, il se dit, ça suffit. Et je crois que ce qui fait la différence entre les émissions qui marchent, comme Complément, comme Capital, comme Envoyé, comme Cash et comme d'autres, c'est la qualité. C'est-à-dire que le téléspectateur n'est plus un ego. Et surtout, le téléspectateur, il a son téléphone avec lui. Il peut regarder plein de choses différentes. Il peut aller sur des sites comme Spicy ou autre, où là, il y a une offre qui est très vaste. La télé n'est plus du tout en situation de monopole et ses émissions de reportage ou d'enquête ne sont plus en situation de monopole. Donc, il y a une obligation de monter le niveau. Sinon, c'est l'abandon du téléspectateur.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Le complément d'enquête demain soir, 3 sujets, Brigitte Macron, Muriel Pénicaud, la com' du président à travers sa conseillère Sibeth Ndiaye, et vous intitulez l'émission « Les femmes du président ».
Oh, ça va pas vous plaire.
Ah non, pas du tout, ça ne me plaît pas du tout. Vous mettez sur le même plan son épouse, un ministre de la 5e République et une collaboratrice de l'Élysée, comme si c'était un RM. Ça veut dire quoi ça, les femmes du président?
Ça n'a rien à voir avec un RM, ça veut dire que le président... Non, parce que vous avez le mauvais esprit, je vois votre œil qui brille. Non, ça veut dire que le président est entouré de femmes qui ont un pouvoir important auprès de lui, pour lui et sans doute au service de sa communication, de l'explication de sa politique et dans la mise en scène, parce qu'aujourd'hui la politique c'est aussi beaucoup de mise en scène, et qu'on s'aperçoit que ce sont des femmes qui sont là à des rôles clés.
Au printemps dernier, la couve de Vanity Fair, je cite le titre, Macron raconté par ses femmes, ses SES, Brigitte, Tiffaine, Sibeth, Anne-Marie, Ouda, Marlène, que de prénoms bien entendu, et en illustration, une photo du candidat dans un joli petit miroir doré et coquet.
Alors Sonia,
ça vous choque ou pas?
Je savais que j'étais pas directeur de la rédaction
de
Vanity Fair.
Non, mais ça vous choque ou pas? Macron raconté par ses femmes avec que des prénoms en dessous.
Oui, les prénoms, oui, parce qu'on le ferait pas pareil avec ses hommes. Voilà, on mettrait pas, je sais pas, il y a Thibaut, machin, bidule. On le mettrait pas. Après, je crois qu'il faut pas être non plus complètement naïf. On est quand même dans une époque où il faut attirer le client. Voilà,
appâter le chaland.
Oui, il faut appâter le chaland. Et ce qui est important, c'est ce qu'il y a derrière. Voilà, c'est la façon dont les sujets sont traités. Cette couve de Vanity Fair, vous vous en souvenez? Donc c'est qu'elle a quelque chose d'efficace. Alors ça peut déplaire, on peut dire que c'est pas très politiquement correct, etc. Après, c'est à chacun, chaque responsable de titre, de trouver, de mettre le curseur où il faut pour rester dans le respect et pour ne pas dégrader son propre travail.
Est-ce que vous avez failli avoir, puisque je l'ai bien dit, hein, vous installez vos feuilles rouges à l'Élysée demain soir, est-ce que vous avez failli avoir Brigitte Macron en interview?
Ah ben, on l'a demandé évidemment, on s'est battu pour l'avoir, mais Brigitte Macron, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup et puis qui visiblement parle quand tout est très
Mais vous avez failli l'avoir, on nous l'a laissé entendre.
Pourquoi failli l'avoir?
La chaîne nous l'a laissé entendre.
Non, non,
vous n'avez pas failli avoir Brigitte Macron.
On a évidemment lancé l'invitation, mais on n'a pas fait l'émission là-bas en se disant on va avoir Brigitte Macron, on va avoir Emmanuel Macron, on va avoir François Mitterrand. Bon, pour le dernier, c'est sûr qu'il viendra
pas.
Ça. Mais nous, si vous voulez, c'est pas, on fait pas une coproduction avec l'Élysée.
Ah bah,
on dit pas, on met nos fauteuils, mais en échange, on fait ça. Non, on fait une émission. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je vais vous dire, que ça crée quelques tensions à l'Élysée et qu'il y en a qui sont pas encore très contents de nous voir débarquer avec nos fauteuils demain dans la cour de l'Élysée.
En même temps, ils vous refourguent l'Élysée. Christophe Castaner,
Ils nous refourguent pas l'Élysée. On a demandé l'Élysée.
Oui. N'empêche que vous vous retrouvez avec Christophe Castaner, vous faites un truc sur les femmes du président, vous vous retrouvez avec Christophe Castaner.
C'est les femmes et c'est la communication
et
du
oui,
président.
Mais Christophe Castaner, qui est donc le porte-parole du gouvernement, pas celui de l'Élysée, c'est Bruno Roger Petit, c'est un homme, il est omniprésent, il est partout, tout le temps. Ouais. Quel intérêt d'aller s'installer à l'Élysée pour interviewer Christophe Castaner, qui passe sa vie sur les plateaux de télé et radio?
Il y a un moment, quand on fait une émission sur la communication présidentielle, ce qui est quand même le fond de l'émission, c'est pas illégitime ni scandaleux de dire... Tiens, vous, parce que je ne le tutoie pas, vous êtes porte-parole du gouvernement, venez, on a des questions à vous poser. Mais on peut pas nous faire le procès d'intention de recevoir le porte-parole. Vous savez bien que dans nos métiers, on doit donner la parole à tout le monde, on doit écouter tout le monde, et après le téléspectateur se fait son avis.
Oui, enfin ça pose quand même, évidemment, ça en dit long sur la communication à l'ère Macron, hein, très centralisée, très verrouillée par Matignon notamment, on va y revenir.
N'empêche ça aurait été Najat Vallaud-Belkacem sous le précédent régime.
Sous le précédent régime, n'empêche que là, il y a une femme clé qui s'appelle Sibeth Ndiaye, et elle se cache.
Elle se cache, mais on le raconte aussi qu'elle se cache.
Elle a été brusquement médiatisée au moment de ce documentaire sur TF1 en immersion le lendemain, diffusé le lendemain de la victoire. Et puis depuis, très discrète.
Se cache, absolument. Et elle, on lui a demandé 40 fois de venir et machin, et elle ne veut pas. Mais ça ne nous empêchera pas de raconter quel est son rôle, de raconter ce qu'elle fait. Je veux dire, c'est pas parce que le oui ou le non de l'Élysée sur la permission de faire une séquence ou pas n'est pas décisif pour nous. C'est nous, on décide qu'on fait le sujet. D'ailleurs, c'est ce qu'on leur dit. C'était la même méthode à Capital. Vous voulez ou vous voulez pas, on le fait quand même.
Alors après, vous me raconterez donc quel est l'intérêt d'aller s'installer à l'Élysée.
Absolument.
C'est ça, à part avoir
après,
un joli...
c'est pas après la pub, parce qu'il n'y en a pas chez vous.
Un joli décor. On va écouter un extrait de vos sujets, parce qu'en effet, l'enquête vous l'a menée et la réflexion vous l'a menée. Emmanuel Macron est en déplacement dans une école primaire à Forbach. Une journaliste se sent bien inutile.
Je suis un petit peu inutile parce que comme il y a un Facebook Live organisé par l'Élysée et qui lui a encore accès à plus de choses que moi, puisque moi je dois quitter les salles beaucoup plus rapidement, le plus souvent que lui, moi je rate des séquences que lui a. Voilà. C'est-à-dire que c'est encore un échelon supérieur de proximité.
Justement, vous le montrez très bien, Emmanuel Macron, il est suivi par très peu de journalistes triés sur le volet, tenu à distance, mais en revanche, en permanence, par un photographe personnel, un caméraman de l'Élysée et un expert des réseaux sociaux qui diffuse tout ça en Facebook Live.
Et qui, des images qui sont parfois reprises par des chaînes de télé, etc., chaînes d'infos ou autres d'ailleurs. Oui. Mais c'est là que je trouve que l'émission prend tout son sens. C'est-à-dire qu'on donne des clés. Je sais que Emmanuel Macron, et j'ai encore entendu sa déclaration cette nuit à New York, il n'est pas content. Il dit que les journalistes sont narcissiques, on ne s'intéresse qu'à la com.
On peut l'écouter, Emmanuel Macron, si vous voulez. C'était en effet hier soir en marge de la conférence de presse de l'ONU. Et il y a une de nos consoeurs qui lui demande pourquoi il a été interviewé pour la première fois à la télévision par une chaîne américaine qui s'appelle CNN et pas par un média français.
Bonjour Alison Tassin, LCI. Une simple question. Vous avez été interviewée par la télévision américaine, CNN. Pourquoi avoir fait ce choix d'un média américain avant de vous adresser en interview à un média français?
Je vous remercie pour cette question de fond. Parce que peut-être les médias français s'intéressent trop à la communication et pas assez au contenu. Quand je vois le temps passé depuis 4 mois à ne commenter que mes silences ou mes dires, je me dis que ça devient un système totalement narcissique.
Thomas Soto, totalement narcissique.
Il y a plusieurs façons de voir les choses. Il a raison et on a raison. C'est-à-dire que si on ne lui parle que de la communication, si on ne fait que ça, mais c'est pas le cas. La vérité, c'est que c'est pas le cas et que c'est commode pour lui de répondre ça à ce moment-là. Mais réduire le chef de l'État, quel qu'il soit, à des questions de com' n'est pas une bonne idée. Et on a raison, nous, notamment un complément avec cette émission et ces enquêtes qu'on mène et qu'on proposera demain soir, on a raison parce que décrypter, donner les clés de compréhension, montrer que voilà, l'image qu'on vous montre là, elle ne vient pas de nulle part, que les journalistes effectivement ne font pas complètement leur boulot parce qu'ils peuvent pas complètement le faire sur les voyages officiels, et ben ça aussi c'est important que
toutes
les gens
toutes ces coulisses de après... la mise en scène des voyages officiels, on a commencé à les découvrir dans Quotidien il y a quelques années sur Canal+, Yann Barthès continue à le faire, ça s'est totalement généralisé. Est-ce qu'il n'y a pas là une vraie dérive quand même, c'est-à-dire de s'intéresser plus à la forme qu'au fond, et est-ce que les journalistes politiques sont pas devenus des journalistes médias, est-ce qu'ils ne sont pas totalement obsédés par ces questions, c'est-à-dire par eux-mêmes?
La question, c'est est-ce que les journalistes, est-ce que nous, quand on fait notre métier, je dis nous au sens général, parce que c'est trop facile de s'extraire, est-ce que nous, on a raison d'aller sur un VO pour aller dire on peut rien faire sur un voyage? Ben non, peut-être qu'il ne faut pas y aller. Pourquoi on suit? Pourquoi on joue le jeu? Pourquoi les journalistes ne se remettent pas eux aussi en question? Parce que c'est toujours facile, et c'est commode, et c'est efficace. Vous y allez, vous tapez sur un pouvoir quel qu'il soit. Moi, je dis, montrons les choses, expliquons les choses. Vous savez, je voulais que je vous parle de l'interview de Brigitte Macron dans Elle. C'est ce qui me choque le plus, moi, dans l'interview, elle ne me choque pas en elle-même. Les questions, les réponses, il y a des choses intéressantes, ça vous intéresse ou ça intéresse pas, vous êtes lectrice ou lecteur de Elle ou pas, c'est votre problème. Moi, ce qui me choque, c'est le chapeau.
Absolument. C'est le chapeau. Moi aussi, voilà. J'en suis tombée des nues.
Je trouve ça incroyable. Et je vais vous dire un truc.
Racontez-le, le chapeau.
Bah, le chapeau, c'est elle est formidable, elle est merveilleuse, elle est ceci, elle est cela. Et je pense...
Elle est franche, elle est souriante, elle est sincère. On a passé un moment unique avec elle, etc. etc.
Peut-être qu'elle n'est pas, mais c'est jamais un journaliste d'écrire ça. Et de faire... C'est... Voilà. Donc là, on est sur notre responsabilité.
Parce que ce qui se passe aux États-Unis est extrêmement intéressant et a été soulevé par certains confrères en disant mais arrêtez de pleurnicher parce que Macron verrouille les accès à la presse. Réveillez-vous, c'est une aubaine, c'est l'occasion jamais de se remettre au travail, d'enquêter, de travailler. Regardez, la presse américaine n'a jamais été aussi prolifique et coriace que depuis qu'elle a moins accès à la Maison-Blanche.
Mais oui.
Est-ce que vous n'êtes pas vous-même pris au piège en allant vous installer à l'Élysée, en étant dépendant?
Ça vous chagrine.
Non, je vous pose la question.
Alors, comme je vous le disais, l'Élysée, ils sont très très tendus. Et j'exclus même pas qu'en dernière minute, ils nous mettent dehors. C'est pour leur dire à quel point ça leur fait pas plaisir qu'on aille là-bas. Ouais. Après, l'Élysée, c'est un lieu de pouvoir, c'est un lieu d'histoire. C'est là que tous les présidents qui y sont passés ont dit à un moment, oui, c'est vrai, ça coupe, ça isole. On va recevoir notamment, je reçois Emmanuelle Mignon, qui était l'ancienne directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy, qui a vécu ça de l'intérieur. Et ben moi, ça m'intéresse de comprendre ce qui se passe derrière. Parce qu'évidemment, l'Élysée, on voit la cour, on voit le conseil des ministres, on voit le perron, les poignées de main, tout ça, c'est de la com, ils l'ont tous toujours fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est l'Élysée, c'est quand même le symbole du pouvoir en France. C'est un monument public, c'est un monument d'histoire, c'est un monument de patrimoine. Et moi, ça m'intéresse.
Je vous rappelle un petit souvenir. À l'époque, vous étiez à Capitale et vous aviez reçu un président de la République.
Monsieur le Président, que répondez-vous à ceux, visiblement majoritaires aujourd'hui dans le pays, qui ne voient pas où vous nous emmenez, qui sont même parfois plus sévères en disant « il nous endort et pendant ce temps-là, on fonce dans le mur ».
Moi, je comprends les impatiences. Et en même temps, je sais ce qu'est la réalité de notre pays. La France, elle a pris du retard, beaucoup de retard. Donc ma mission, c'est de la faire avancer. Et de la faire avancer autant qu'il est possible. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit compris par les Français, c'est le sens de notre rencontre de ce soir. Et en même temps, il faut que ce soit utile.
Il dit beaucoup et en même temps, vous avez raison. Deux fois.
Et ça faisait donc pile un an qu'il avait été élu, c'était en 2013, il vous avait promis de venir à Capitale. Il est venu en direct sur le plateau de Capitale. Et c'est exactement le même enjeu, c'est-à-dire les Français ne vous comprennent plus, ne comprennent plus où ça va.
Absolument. Mais vous croyez que ça a été simple? Vous savez qu'il a juste tenu sa promesse pour qu'il revienne?
Pas du tout.
Moi, j'ai relancé pendant toute l'année son service com. Attention, il a promis. Ouais. Et puis un jour, il faut être honnête, ils ont eu besoin de cette interview. Donc moi, ils m'ont appelé et ils me disent « Est-ce que votre proposition tient toujours, etc. ?» Évidemment. Alors là, qu'est-ce que je fais? Soit je dis « Eh oh, moi je suis pas aux ordres, hein, donc va faire TF1 » ou soit je dis « Bah oui, sauf qu'on fait l'émission qu'on veut, on prépare comme on veut, on a une liberté totale dans les sujets, j'ai une liberté totale dans les questions et on est en direct, il n'y a pas de filet. » Voilà. Moi, je crois qu'il ne faut pas avoir non plus l'impression de redécouvrir l'eau tiède. Je veux dire, la rareté de la parole présidentielle qui gêne tellement aujourd'hui, il y a un monsieur qui s'appelle Jacques Pilan.
Avait théorisé.
C'était sous Mitterrand.
C'est ça.
C'était en 81. Voilà.
Et même Chirac en a bénéficié. Merci beaucoup, Thomas Soto.
Je vous en prie,
complément d'enquête, les femmes du président. C'est demain soir à 23h et sur France
22h50.
22h50. Allez, 22h50. Allez, allez, Rébéi, vous
bonjour,
c'est à 10h.
Bonjour Sonia de Villers.
Salut, salut.
Quels sont les grands ressorts de l'apprentissage chez les enfants? Comment leur transmettre le plaisir, le goût d'apprendre? 01 45 24 7000. Grand bien vous fasse, @radiofrance.com.